Donc, bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. C'est une joie d'être dans la présence du Seigneur et aussi à travers ces chants qui nous amènent dans sa présence. Et comme nous avons dit ce matin, au travers des chants, aimez le Seigneur. Nous aimons le Seigneur et on n'a pas peur de le dire, de proclamer que nous aimons notre Dieu. Je ne sais pas s'il y avait des classes ce matin. Non? OK. Bienvenue parmi nous, les jeunes. Juste avant d'aller dans le message ce matin, j'aimerais informer pour ceux qui sont là, mais aussi, surtout pour ceux qui nous suivent en ligne, la semaine prochaine, on a une AGA, donc une Assemblée annuelle générale de l'Église. Donc, le culte va être filmé en entier. Donc, le culte, je parle des chants. On va avoir comme deux chants. Ensuite, on va avoir un message, un court message dans la parole de Dieu. Donc, ça va être un peu plus écourté. Donc, au lieu de commencer comme ce matin, je vois qu'il est 10h35, ça va être plus à 10h. Donc, pour ceux qui nous suivent, qui veulent être là, c'est juste, ça va être plus de bonne heure. Donc, préparez-vous. Normalement, c'est plus dans ces heures-là, vers 10h30 qu'on commence. Mais la semaine prochaine, 10h. Marquez ça, écrivez ça à vos agendas. Pas passer de rette, sinon à 11h moins quart, on devrait avoir fini. Donc, c'est ça pour l'annonce que je voulais faire pour ceux qui suivent en ligne. Et ce matin, comme notre sœur nous parlait tantôt, bien nous sommes le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, le 15 février 2026. Et j'aime bien faire des prédications, amener des messages contextuels. Donc, ce matin, on va parler de « Aime ton conjoint comme Dieu t'aime ». La barre est haute. La barre est haute pour chacun de nous ce matin, ceux qui sont en couple. Et aussi, j'aimerais dire, pour ceux qui sont en marche ou qui aimeraient avoir un conjoint ou une conjointe, bien, ce message, vous pouvez aussi le prendre pour vous ce matin, vous préparer mentalement, spirituellement surtout, dans cette direction, à savoir ce que le Seigneur nous demande à nous comme couple, je vais dire comme ça, pour que ça l'englobe les deux, et selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, si je posais la question ce matin, c'est quoi pour toi aimer ton conjoint comme le Seigneur? Quelques instants de pour y passer. Il nous vient tout de suite, ou certaines personnes vont leur venir à l'esprit, comme moi, lorsque je me suis posé la question. Première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Matthieu 22, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 37 à 40, où Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement, nous dit le Seigneur. Mais ça n'arrête pas là. Poursuit ensuite en disant, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui ressemble, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Donc, on connaît les 10 commandements que Moïse a reçu dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on regarde les cinq premiers commandements sont envers Dieu, et les cinq derniers, les cinq autres, sont envers ton prochain. Mais qui sont ces prochains? C'est ce qu'on va regarder, parce que souvent, on a tendance à dire, à suivre ce que la parole de Dieu nous dit, et d'appliquer la parole aux autres, ou envers les autres. Et comme on a vu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras ton prochain, mais ton prochain, c'est premièrement celui avec qui tu vis. Ton prochain, ce matin, oui, c'est tout le monde, mais en particulier, je dirais, ton conjoint ou ta conjointe, la personne avec qui tu vis. C'est lui ton prochain. Donc, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pour certaines personnes qui connaissent les Écritures, on peut faire un parallèle, mais on va le voir tantôt dans le Nouveau Testament, parce que ce contexte nous est rappelé aussi dans le Nouveau Testament. Vous direz bien de mentionner ce passage de Matthieu, mais j'aimerais y ajouter bibliquement certaines explications ou profondeurs, car oui, aimer Dieu dépend tout l'accomplissement de ses commandements. Mais c'est aussi, en même temps, beaucoup plus lorsqu'on pense au comment aimer Dieu et notre prochain. Deux défis. On peut appeler ça un défi? Oui, on peut appeler ça un défi. D'aimer Dieu, comme lui nous demande de l'aimer, et d'aimer l'autre, notre conjoint, ou les autres aussi, ça englobe les autres, comme le Seigneur, lui, nous a aimés. Je nous invite à réfléchir avant de répondre à cette question qui m'est venue en préparant ce message. Et je vous demanderai de ne pas répondre à haute voix, mais d'y répondre dans votre tête, d'y réfléchir. Et cette question est celle-ci. Es-tu capable d'aimer Dieu et les autres, ton conjoint, comme le Seigneur t'aime? Réfléchissons à la manière dont le Seigneur nous a aimés, à la façon dont il nous aime, et qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné jusqu'à sa vie pour nous. Lorsqu'on prend ces paroles, c'est tout ce que ça l'englobe ce matin et qu'on le met à nous vis-à-vis l'autre. Lorsqu'on se l'applique dans notre vie concrètement. Donc, nous allons regarder ce matin quelques références bibliques sur l'amour de Dieu, mais le Seigneur m'a dirigé aussi dans la deuxième partie où cet amour que Dieu nous a aimé, comment l'appliquer envers l'autre ou les autres. Ou peut-être, prochainement, pour ceux qui sont plus jeunes, qui n'ont personne encore, ou plus vieux des fois, qui n'ont personne et qui pensent à un moment donné revenir en couple. Donc, voici ce que nous donne comme enseignement le Seigneur. Donc, ceci était l'introduction. Et voici maintenant les enseignements du Seigneur. Dans Jean chapitre 14, versets 15, versets 21 et 23, et j'ai pris ces textes-là spécifiquement parce que c'est en rapport avec ce qu'on parle ce matin. Donc, si vous m'aimez, dit le Seigneur, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et plus loin, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 12, Jésus dira aussi ceci, un petit peu plus loin, quelques chapitres plus loin, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » La première partie, donc, que nous regardons ce matin, bien, en premier lieu, Jésus parle, verset 15, d'une chose essentielle à faire pour aimer Dieu, il faut aimer sa parole. Je ne peux pas dire aimer Dieu et négliger la parole, je vais le dire comme ça. Ou ne pas écouter ce que le Seigneur a à dire. Est-ce qu'on peut le mettre la même chose pour le couple? Je ne peux pas aimer ma conjointe, mon conjoint, sans écouter ce qu'il me dit, sans être attentif lorsqu'il me parle, lorsqu'il me demande quelque chose. Je pense que ça ne durerait pas longtemps. Je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, là. Mais si on est en couple puis l'autre personne ne t'écoute jamais, puis quand que tu suggères des choses qu'on partage ensemble, puis elle ne fait jamais rien, peut-être que ça ne durera pas longtemps. Et c'est la même chose avec le Seigneur qui nous demande. Sommes-nous attentifs à ce que lui veut? Et si nous sommes attentifs à ce qu'il lui nous demande, il va nous aimer. Ça se fait automatiquement. Le Seigneur nous aime, il va nous aimer, bien justement, lorsqu'on met en pratique ce qu'il nous demande, lorsqu'on écoute ce qu'il nous demande, et lorsqu'on se fie à lui. Donc, des choses essentielles à faire d'aimer Dieu. C'est ce que celui qui dit aimer le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous dit. Celui qui dit aimer le Seigneur garde ses commandements, va garder sa parole. Et Jésus avait déjà enseigné cela, dans juste quelques chapitres avant aussi, et donné cette promesse à ses disciples en leur disant, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 51, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Il ne verra jamais la mort. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer la vie. Avoir des jours paisibles, avoir des jours de grâce, des jours où ce que nous pouvons goûter les promesses et les bontés de Dieu, sa grâce envers nous, expérimenter tout cela. À plusieurs reprises, le Seigneur enseigne de garder ses commandements, sa parole, puisque cela a pour signification dans le grec de prendre soin, de s'occuper soigneusement. S'engager, c'est ça. C'est de prendre soin et de s'engager. Quelque chose qui est difficile aujourd'hui hein, dans notre monde. Lorsqu'on parle d'engagement, il y en a plusieurs qui se désistent, qui fuient en courant. Pourtant, c'est la bénédiction qui attend ceux qui agissent de la sorte. Littéralement, garder signifie d'observer et de pratiquer la parole de Dieu, les enseignements du Seigneur. Jésus va justement faire un lien important avec garder, verset 21, et de l'aimer, en disant celui qui les a, ses commandements, qui les applique dans son cœur, dans sa vie, et qui les garde, comme nous avons vu, que celui et celle qui les observe et les pratique sera aimé de lui et du Père. Et Jésus va inclure ici le Père aussi. Dieu lui-même va t'aimer lorsque tu prends soin de sa parole. La parole du Seigneur nous dit qu'il, Jésus, t'aime, si conditionnel à ce que tu mettes en pratique sa parole dans ta vie. Chaque fois qu'une personne dit « aimer le Seigneur », et on l'a chanté tantôt, j'espère qu'on réfléchissait et qu'on méditait aux paroles qu'on a chantées. Parce que chaque fois qu'on dit « aimer le Seigneur », bien, c'est réciproque pour lui. Chaque fois qu'on s'approche du Seigneur et qu'on lui dit qu'on l'aime, bien, cela signifie pour lui cet échange, ce lien, cette relation. C'est ça qui nous met en relation avec Dieu. Et lorsqu'on le fait, on le dit assez pour lui donner notre vie, comme lui a donné sa vie pour nous. Il doit inévitablement s'engager. Nous devons inévitablement nous engager à faire sa volonté, car c'est ainsi que le Seigneur peut se révéler à nous, à toi, ce matin, par son Esprit. La fin du verset 21 qu'on a lu tantôt. Donc, puisque comme Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie à mon époux, à mon épouse. Ce n'est pas les vœux qu'on fait lorsqu'on se marie. Dans les bons et les mauvais jours, de demeurer fidèle jusqu'au bout. Et on chante au Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Verset 23 de Jean, chapitre 14, poursuit avec la même approche et Jésus ramène le fait que c'est seulement lorsque nous mettons notre foi dans sa parole et qu'on la pratique, bien que cela signifie obéir à ce que le Seigneur me demande, qu'il vient en nous par son esprit afin de révéler son amour en toi ce matin. Le Seigneur sait ce qu'il désire, de révéler son amour dans ta vie. Vous savez, je ne peux pas plaire à Dieu quand je lui désobéis, que je pêche ou encore que j'enfreins sa loi. Alors, comment faire pour être aimé de lui? Bien, je dois aimer sa parole. 1 Jean chapitre 4, verset 16 nous dira ici, « Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu a pour nous. » Est-ce que vous avez connu cet amour ce matin, Seigneur? Et l'apôtre Jean nous dit cela parce que c'est vrai qu'il a connu l'amour de Dieu. Jésus lui a dit à plusieurs reprises qu'il l'aimait. Et il poursuit en disant, « Et nous y avons cru. » Dieu est amour, qui est son attribut, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Wow! C'est beau, hein? Dieu est amour. Ce n'est pas quelque chose que lui, ça va grandir, contrairement à nous. L'amour de Dieu, elle est parfaite. Elle est immuable, elle est grande. Il n'y a rien à changer à son amour. Elle est parfaite. Mais pour nous, c'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose qui progresse dans notre vie. Apprendre à aimer. À moins que quelqu'un lève la main ce matin en me disant, « Moi, je connais l'amour parfait de Dieu. Et je vis cet amour parfait de Dieu dans ma relation avec lui et aussi avec les autres. » C'est ça que ça l'englobe. L'amour de Dieu, oui, c'est envers lui, mais aussi envers les autres. 1 Jean, chapitre 5, verset 3 et 4, nous dira, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, ou accablants, ni un fardeau difficile. » C'est ça que ça veut dire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 4. Donc, l'amour consiste en garder ses commandements. Mais ses commandements ne sont pas pénibles, ce n'est pas un fardeau. C'est quelque chose de léger. Et aimer Dieu, ça doit être quelque chose de léger. Comme aimer notre femme et les femmes leur mari. Ça ne doit pas être un fardeau. Je l'applique au couple ce matin. Parce que on doit aimer Dieu comme lui nous a aimés et aimer notre prochain comme lui l'aime aussi et comme nous aimons. Ça va ensemble. Aujourd'hui, un déséquilibre, hein? Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, premièrement. Avant de connaître l'amour, avant d'aller vers l'amour, apprenez à vous connaître. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Apprends à te connaître toi-même. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as besoin? Et vous allez réaliser qu'avec les années, ce n'est pas seulement le plaisir sexuel, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a une relation qui grandit, qui s'affermit et qui devient solide. Et cela vient des échanges. Ça vient avec les buts dans la vie. Ça vient avec des affinités avec l'autre. Toutes des choses qui grandissent à fort et à mesure de grandir avec l'autre. Et c'est ça qui est le plus important. Nous connaissons l'amour et nous en parlons souvent. Mais aimer les autres comme lui nous a aimés, ça, on n'en parle pas souvent. Mais on devrait en parler plus souvent. On a des chrétiens, des fois, des personnes qui aiment le Seigneur, sont remplies. Je t'ai pas dit remplies de l'esprit, sont remplies. Mais lorsqu'on parle de l'amour, Jésus en a parlé. Vous avez négligé quelque chose de très important. La miséricorde. Est-ce que c'est important dans une couple? Je pensais entendre un « Amen ». Amen. C'est important dans le couple, la miséricorde, la grâce, faire grâce à l'autre, le pardonner, être là pour elle, pour lui. Être capable d'écouter, d'être à l'écoute et quand il arrive des choses, d'être capable de le gérer. Pas de se pousser ou de se fâcher puis devenir violent. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Et parfois, ça arrive même dans le milieu chrétien. C'est désolant. Des personnes qui disent suivre le Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais n'ont pas appris à aimer l'autre qui est avec eux, premièrement. Ça fait mal au cœur. Et comment ça doit attrister le Seigneur? De voir des couples qui se méprisent, qui ont de la misère à s'endurer, à se parler, à s'écouter, à se pardonner. C'est ça le vrai amour. Savez-vous, aimer les autres comment? Commence par nous-mêmes, je disais tantôt, et nos proches, notre époux, notre épouse. L'amour doit être au centre de notre vie de couple. Mais comment appliquer ce même amour? Comment l'appliquer dans notre vie? Est-ce que la parole de Dieu en parle? Amen. Oui, le Seigneur en parle. Le Seigneur a inspiré Paul lorsqu'il écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 29, « Marie, aimez vos femmes, votre femme, comme Christ a aimé l'Église. » Comme Christ a aimé l'Église. C'est qui l'Église? C'est chacun de ses enfants. Chacun de ceux qui ont placé leur foi en lui. Et dit, il s'est livré lui-même pour elle. Es-tu prêt à donner ta vie pour ta femme, ton mari? Verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le jour de ton mariage, lorsque tu t'es marié avec, un peu comme lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, puis que tu t'es fait baptiser, parce que tu voulais montrer ton amour pour lui. Et le mariage, c'est comme le baptême de l'amour. C'est pour ça que c'est important pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est méprisé le mariage. On n'a pas besoin, on est capable de rester en couple. On est capable de rester à côté, puis ça va faire l'affaire. Si jamais ça ne marche plus, il n'y a pas d'engagement. Où est le vrai amour? Verset 27, « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Wow! C'est pour ça que je disais tantôt, hein, la marche est haute au début. Je dois élever ma femme et la femme son époux. Je dois en prendre soin puis la nourrir de cet amour, la nourrir d'affection, de miséricorde dans toutes les sphères de ma vie. Je dois être là pour elle et elle pour lui. Je fais une autre parenthèse ici. Un jour, on a connu un couple que elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'il y a eu un accident. Qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a laissé là. Et ça ne me tente pas de m'occuper de quelqu'un de de l'autre parce qu'il est rendu à l'hôpital. Ben voyons donc. C'est quoi ça? On veut plus s'impliquer dans le couple. On veut plus être là pour l'autre. On veut plus soutenir l'autre, même dans la maladie. Vous me direz, il n'était pas marié, mais c'est une raison. On va signer pour un char ensemble. On va signer ensemble pour une maison, mais on ne veut pas s'engager un pour l'autre. Jusqu'à quelle est la logique aujourd'hui? Elle est où la logique? Verset 28, je vais fermer la parenthèse. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme Christ ou comme leur propre corps. Est-ce que le Seigneur aime son corps, aime son Église? Amen. On doit aimer l'autre comme le Seigneur aime son Église, son corps. Et comme toi-même, c'est pour cela, je disais ça tantôt, il faut apprendre à nous aimer nous-mêmes avant d'aller vers l'amour pour un autre, d'en impliquer un autre. Respecter ton propre corps, c'est ça que Paul enseigne. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il la nourrit et en prend soin. Il la nourrit et en prend soin. Apprendre à m'aimer, c'est la base. Et ensuite, je vais être capable d'aimer un autre. Je vais être capable de m'impliquer pour satisfaire l'autre et dont mes propres intérêts. Vous savez, c'est ça? C'est ça, premièrement. Jésus, lorsqu'il a aimé son Église et qu'il s'est donné pour elle, c'était pas, premièrement, pour ses propres intérêts. C'était afin que tu sois sauvé, que chacun de nous soit sauvé. Ça, c'est la plus belle et la plus grande raison de l'amour de Dieu. Il s'est donné pour toi. Es-tu prêt à te donner pour l'autre? Cet enseignement de l'apôtre Paul est crucial pour notre compréhension de l'amour et de comment aimer l'autre. Lorsque Dieu a créé l'homme, puis il créa par la suite la femme, qui est son aide à partir de sa côte, la côte de l'homme, celle qui sera pour lui os de ses os et chair de sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'elle est soudée à toi. C'est ça que ça veut dire. Le mariage, c'est ça. On est soudés un à l'autre. Et c'est pour ça qu'il nous a dit que personne ne sépare ce que Dieu a oint, a uni. Parce qu'on est soudés et on se soude avec l'autre. Et on devient une seule chair, nous dit la parole de Dieu. Celle qui sera pour lui os de ses os, chair de sa chair. Je dirais aussi celle qui sera attachée à lui, afin qu'ils deviennent une seule et même chair. Genèse chapitre 2, versets 20 à 24, autour de ça. Ça finit au verset 24. C'est le contexte de la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés pour que ça soit facile à dessouder l'ensemble. Non, il l'a fait d'un à l'autre, l'un pour l'autre. Je m'adresse aux couples ou à ceux qui désirent être en couple. Vous devez ou devrez, devant Dieu, aimer votre femme comme Christ vous a accueilli et vous a donné la vie. En prenant soin d'elle avec tout votre amour. tout l'intérêt, la compréhension et l'écoute que le Seigneur a eue envers toi, tu dois la pratiquer de même pour l'autre. Ça, c'est pas facile pour l'homme, en partant. Là, je parlais pour moi. Tu dis de l'eau. Pour ça, je disais tantôt, on n'est pas parfait en tout, hein? Comme les hommes, des fois, les femmes nous parlent, puis on dit, je viens juste de te dire, hein? Ça fait pas longtemps que, que c'est arrivé, justement. Ça arrive, des fois, on t'occupe à quelque chose, puis là, ton épouse, elle te parle, puis là, à un moment donné, tu lui poses la question, elle dit, bien, je viens juste de te répondre. Ah, OK. Être à l'écoute de l'autre. On n'est pas parfait en tout. Ça arrive. Des fois, on échappe. Des fois, on échappe. Donc, je disais, compréhension, l'écoute. Compréhension et écoute que le Seigneur a eu pour toi, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même, nous dit aussi les Écritures. Il la nourrit et en prend soin comme... Et j'aime ce « comme ». À la même hauteur, à la même grandeur et même profondeur que Christ l'a fait pour toi. C'est pour cette raison que le mariage est aussi une institution sacrée, mais aussi important pour Dieu que devait l'être aussi pour toi ce matin. Je dirais que c'est aussi pour cette raison que lorsqu'un chrétien, un disciple du Seigneur, bien, qui désire faire la volonté de Dieu, bien, être en relation avec une autre personne, bien, ça apporte la bénédiction. J'avais écrit ici, pour ceux qui désirent faire la volonté de Dieu, ou faire la volonté de Dieu est en relation avec un ou une autre personne, le pasteur se doit d'avertir les deux personnes de penser au mariage, d'honorer le mariage. C'est vers ça que je m'en allais. Donc, Hébreux, chapitre 13, verset 4, nous dit que le mariage soit honoré de tous, ou qu'ils se respectent et soient fidèles l'un à l'autre. Et le lit conjugal exempt de souillure, d'immoralité, car Dieu jugera les impudiques, les débauches, ce que ça veut dire, et les adultères. Aimer selon Dieu, c'est aimer comme le Seigneur t'a aimé, et aime aussi ta conjointe, ton conjoint. C'est de la respecter, de veiller à son bien-être avec amour, comme tu le fais avec toi-même. Non avec violence physique, psychologique ou par intérêt égocentrique, narcissique, égoïste. Hein, ça c'est... etc. Et lorsque j'écrivais, je pensais à quelque chose. Pourquoi on en est rendu là aujourd'hui? Ben, je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens ont si difficulté à s'attacher, à faire une priorité, même, je pourrais dire, de mettre en pratique tes enseignements en ce qui concerne notre responsabilité envers Dieu, mais aussi envers ton conjoint, ta conjointe. Et il m'est venu ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, où Paul disait ici, « Sache que dans les derniers jours, » Est-ce qu'on est dans les derniers jours? On est pas mal là. Avec ce qu'on voit et comment ça se passe aujourd'hui, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, les femmes, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence même de la piété, hein, parce que Paul parle à l'Église, mais reniant aussi ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là. s'éloigner de ça. Je pense qu'on est aveugle d'être resté en campagne, dans un rang, tout seul, pour être éloigné de tous ces choses-là. Hein? Lorsqu'on regarde cette liste-là, on dit, ouais, c'est dur de vivre, continuer à vivre avec tout ce qui se passe, tout ce que le Seigneur nous avertit dans la fin des temps, une vie paisible et en paix, même dans le milieu chrétien parfois, malheureusement. Je vais revenir tantôt. Je dois dire de notre société que notre société est malade. Je dois le dire. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle est mise en pratique, devrait enlever complètement les risques de dérèglement, de péché, d'excès, de toutes sortes. Lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, être ouvert à ce que le Seigneur nous dit, ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est le danger qui guette le disciple. Et si on a accepté le Seigneur, c'est qu'on s'est engagé à être son disciple. Qu'est-ce que fait un disciple? Il fait la même chose que son maître. Il suit son maître, il suit sa parole, ses enseignements, et il fait ce que lui recommande. Il met en pratique ce que lui recommande. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 19, nous dit, si Marie aimez vos femmes, votre femme, parce qu'il parle au pluriel à cause de l'Église, mais aimez votre femme et ne vous agrissez pas contre elle. Ne soyez pas dur. Racine du mot grec signifie d'être amer ou être rempli d'amertume. Ouf! Là, on mange une claque un matin. Ne vous aigrissez pas contre elle ou elle contre lui. Hein, ça s'applique aussi aux femmes. Ne soyez pas dur, qui signifie la racine du mot grec, d'être amer ou rempli d'amertume envers l'autre. Définition d'amertume est un sentiment durable qui mélange à la fois la tristesse avec la rancœur. Elle est souvent liée à une humiliation, une déception ou un sentiment d'injustice. Oh, je vais le répéter. L'amertume est un sentiment de tristesse mélangé avec de la rancœur. Ça nous parle. Elle est souvent liée à l'humiliation. Si tu es dans un couple, puis l'autre passe son temps à t'humilier, c'est ça que le Seigneur parle. Une déception qui vient t'envahir et tu ne te sens pas bien, profondément. Et ça nous parle d'un sentiment durable. Que ça arrive souvent. Hébreux chapitre 13, verset 10, nous dira que l'amour ne fait point de mal à l'autre, à ton prochain. L'amour, donc, est l'accomplissement de la loi. Je n'ai pas la bonne référence. Ça sera corrigé. Vous ferez la recherche. Mais ça vient d'un passage des Écritures. Désolé pour la référence. L'amour ne fait point de mal à l'autre ou au prochain. L'amour, parce que c'est le prochain qui est écrit, bien moi ce matin, je l'ai mis en contexte de l'autre. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'aimerais ajouter ce matin que si l'un ou l'autre dans le couple est aux prises avec un conjoint, une conjointe qui ne respecte pas d'aimer l'autre, comme le Seigneur nous l'enseigne, comme on vient de voir, C'est sûr que ça peut arriver un différent. Ça peut arriver que on se pique, qu'on aime se piquer un l'autre, mais dans un respect. C'est ça qu'on parle. Mais lorsque ça arrive que ce n'est pas fait avec respect, ne respecte pas d'aimer l'autre comme le Seigneur nous l'enseigne, comme on a vu, bien, vous devez quitter cet environnement toxique. Je le dis en tant que pasteur ce matin. Ça m'est arrivé d'avoir à dire 2-3 reprises, de dire à des personnes de quitter l'autre parce que c'était trop un environnement toxique, même dangereux pour la vie de l'autre. Si la personne ne te respecte pas, respecte-toi et quitte cet environnement. Je suis toujours disponible pour vous conseiller, pour réconcilier les couples, pour même pour prendre, hein, pour renouer les vœux, et ainsi de suite. Mais lorsque la violence physique ou psychologique, mon éthique pastorale m'oblige à faire la dénonciation aux autorités. On n'en parle jamais de ça. Hein? Mais que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, chaque ouvrier, chaque pasteur est obligé, selon son éthique, d'aller vers les autorités lorsqu'il y a de la violence physique, psychologique, qui peut amener une personne à soit se faire du mal à elle-même ou qu'elle reçoit de la violence. Je parle au Québec, en tout cas au Canada, je ne sais pas les autres, parce qu'on a des églises d'un petit peu partout qui nous suivent. Mais vérifier avec les autorités. Mais en ce qui nous concerne, bien selon notre éthique, c'est la façon de procéder. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc, l'amour doit être réciproque. Fait que c'est pas toujours au même à nourrir l'amour dans le couple. Ça devrait être réciproque parce que l'amour est de Dieu et on doit s'aimer les uns, mais aussi les autres. Recevoir aussi de l'amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. J'aime ce que Jean nous enseigne ici. Mais celui et celle qui aime Dieu aime et doit aimer l'autre comme il a été aimé de lui. Et j'aime ce que Jean parle ici en disant « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Parce que le Seigneur se révèle dans l'amour, non dans la chicane. Il y a des personnes, des fois, qui disent « Moi, je suis sauvé, j'ai accepté le Seigneur, puis... » sont tout le temps en chicane avec quelqu'un, bien, il y a un problème à la source. Et la source du problème, c'est que tu n'as pas appris à aimer. Tu dois retourner au pied de la croix et faire le ménage. J'ai un bon livre que j'aimais là-dessus, c'est « Le Libérateur ». S'il y en a qui aimeraient faire cette thérapie, cette de cœur, bien, on pourrait se rencontrer. J'aime beaucoup son approche, où il y a une approche qui est spirituelle, mais aussi une approche qui est physique, si on peut dire. Parce que oui, le Seigneur peut délivrer, mais parfois, ça a été transmis comme de génération en génération, puis les personnes respirent. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible non plus. Mais j'aime son approche dans ce livre-là qui amène les deux aspects. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, j'aime ce passage aussi, surtout pour le couple, où il nous a dit, est-ce que j'ai bien la même chose? Oui. Je regarde la référence ce coup-là. Jean nous dira que la crainte n'est pas dans l'amour. Lorsque tu es rendu à craindre l'autre, quand elle arrive, elle met les pieds dans la maison, qu'elle ouvre la porte, il y a un problème. Lorsque tu vas te cacher, quand que tu sais que l'autre s'en vient, il y a un problème. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Même elle, elle est affectée dans son amour. On parle de choses sérieuses ce matin, hein? Mais on n'en parle pas assez. Je le disais tantôt. La crainte n'est pas dans l'amour. Si tu as peur de l'autre, ça ne va pas bien. Si l'autre te fait peur, ça ne va pas bien. Sors de ton environnement toxique. Le Seigneur te dit ce matin que tu vaux beaucoup plus que ça. Le Seigneur te dit que tu vaux beaucoup plus que ça. Parce que lui, il t'aime. Voici comment agit l'amour, le vrai, le véritable, selon la parole de Dieu. Vous connaissez, la majorité de ceux qui sont en amour connaissent ce passage pratiquement par cœur. Épître aux Corinthiens, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Hein, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Qu'est-ce que Paul nous enseigne? Que l'amour est patient. Hein? Si vous êtes en amour ce matin, vous êtes sûrement d'accord avec ce que Paul nous enseigne, que l'amour est patient. Et en amour, il faut être patient. Il ne faut pas se dépêcher. Il ne faut pas pousser puis défoncer les portes. Il faut le laisser arriver le moment où ce que tu seras prête à l'accueillir. Tu dois être patient. Elle est pleine de bonté. Lorsqu'elle est faite en son temps, dans les temps de Dieu. La charité n'est pas envieuse. Hein? L'amour n'est pas envieuse. Lorsqu'on envie toujours l'autre, ce n'est pas un bon mix. Vivre toujours en train de dépendre de l'autre, ce n'est pas un bon mix. D'être envieux de l'autre. L'amour ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Hein? Quand tu es avec un conjoint, une conjointe qui passe son temps à se vanter, puis il en met, à un moment donné, hein? C'est comme, c'est pas ça l'amour. Essayer de prouver à l'autre, en faisant toutes sortes de simagrées, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est un « je t'aime », c'est une attention, une écoute, une proximité. C'est une relation qui est nourrie à chaque jour. Elle ne sent point d'orgueil non plus. Elle ne fait rien de malhonnête. Faire des coups en arrière à ta conjointe, c'est pas une bonne idée. À un moment donné, ça va te tomber dans la face, comme on dit ici au Québec. Verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice. Oh, quand l'autre y arrive de quoi qui est injuste, enfin, hein, ça y revient. Hein? Ça va-tu lui faire du bien? Hein, c'est pas la bonne façon d'aimer. Hein, lorsque tu as envie quasiment à chaque fois que l'autre tombe, puis remarque ça, c'est drôle, là. Demande à Annie, mais. Mais, vous savez de quoi qu'on parle ce matin? Donc, ne cherche point son propre intérêt. Je t'ai rendu au verset 6. Je pense que j'ai passé le 5. Hein? Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. On en a parlé tantôt, même avec Paul, lorsqu'il parlait dans Corinthiens. Je crois donc, il dit, ne cherche point son propre intérêt, et ce n'est pas la façon de marcher lorsqu'on est en couple, toujours passer ses propres intérêts en premier. Ne pas s'intéresser à l'autre. ne s'irrite point, on a parlé tantôt, hein, aussi. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ah, ça, c'est bon. On se réjouit de la vérité, de ce qui est vrai. Et c'est ce qui nourrit le couple, c'est ce qui nourrit l'amour, la vérité. Lorsqu'on est vrai l'un envers l'autre, on ne se cache rien. On est capable de tout se dire. On est vrai. C'est ça que ça veut dire. Être vrai, être là, être à l'écoute. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ça finit bien, hein? Parce que oui, ça arrive des fois qu'on a besoin de demander pardon, de s'excuser. Et lorsque l'autre parle, bien, on a assez confiance pour croire en ce qu'elle nous dit, ce qu'il nous dit. Parce qu'on est vrai envers l'autre. Elle espère tout. Hein? C'est ça un couple. Espérer ensemble des choses. Avoir des projets. Avoir de la projection. D'avoir une projection ensemble. Et elle supporte tout. Ça finit avec supporter tout. L'amour supporte tout. Et même les petites manies, des fois, qui peuvent nous fatiguer, on est capable de le supporter. Et termine par 8, verset 8, la charité ou l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Vous savez, lorsque tout cela est mis en pratique, même avec l'âge, avec le temps, ça ne fait que s'endurcir, que s'approfondir, que grandir. Ce n'est pas quelque chose qui va diminuer, mais qui grandit et qui ne périra jamais. Pourquoi? Parce qu'il est nourri. Il est alimenté par les vraies choses. Le vrai amour, c'est ça. Et je terminerai avec cette pensée. Aimer son conjoint, sa conjointe, comme Dieu t'aime, c'est à tous les jours. C'est une œuvre, une progression d'apprentissage aussi et de croissance qui en vaut la peine. Car c'est d'appliquer et de rendre à l'autre la même grâce et le même amour que nous avons reçu de Dieu. Car pour nous, frères et sœurs, et cela, ça s'adresse à tous les enfants de Dieu ce matin, car nous, frères et sœurs, il y a trois choses qui doivent demeurer notre priorité. Et Paul nous dira dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, et je finis par cela, qu'ils sont la foi, l'espérance et la charité. Croire à l'autre. L'espérance espère en l'autre. Et l'amour qui est immuable, que rien ne peut séparer. Lorsque ces trois choses sont mises en application, qui nous sont enseignées envers Dieu, mais envers l'autre, l'amour sera durable. Il va être éternel. Elle va changer de forme dans l'éternité parce qu'elle va être parfaite. Elle va être parfaite. Mais maintenant, pour tout de suite, on travaille avec nous qui sommes nous-mêmes imparfaits, avec une autre personne que le Seigneur nous a donnée qui est aussi imparfaite, afin qu'en les deux ensemble, bien nous devenions deux personnes imparfaites, mais qui sont parfaites dans l'amour. C'est possible? Par la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. C'est possible. Et je souhaite cela à tout le monde. Donc, ces musiciens, bien, sûrement, C'est un champ projeté. Donc, on